Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de nous incliner dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as laissée, cette parole qui nous éclaire, qui nous nourrit. Et Seigneur, au moment où nous voulons l'ouvrir pour être enseignés de toi, nous te prions d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos intelligences et de nous garder aussi de mauvaises compréhensions de ce que tu veux nous dire. En ton nom. Amen. Comme Guy vous l'a déjà rappelé, nous allons poursuivre ce matin notre méditation du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, les Béatitudes. Pierre nous a déjà présenté les quatre premières il y a 2 semaines. Et je vous avoue que c'est un thème qui m'intéressait beaucoup, mais que je ne savais pas trop comment aborder, ces 4 versets comme ça qui se suivent. Et j'ai emboîté le pas à Pierre, il a eu la gentillesse de me transmettre ses documents, donc j'ai repris sa grille d'analyse en 5 points. Voilà, vous reconnaîtrez les petites icônes qu'on avait vues. Et puis, par honnêteté intellectuelle, je voudrais dire aussi que je me suis aussi inspiré d'une prédication de Florent Varac, que j'ai trouvée sur un site. Si quelques-uns veulent avoir les coordonnées, je peux leur transmettre après. Je vous invite donc à la lecture dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, à compter du verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. J'ai consulté le Larousse pour vérifier le sens du mot miséricorde. J'y ai trouvé 3 définitions. Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Disposition à venir en aide à celui qui en a besoin. Attribut de Dieu qui explique son dessein de salut de l'humanité. Et je commencerai par ce premier point. Dieu est miséricorde. La présidence de ce matin nous l'a bien rappelé. J'ai regardé rapidement plus d'une 100aine de mentions de la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors bien sûr, il y a le psaume « Car sa miséricorde durera toujours », alors ça compte bien pour 20 ou 25, mais enfin il en reste quand même 75 ou 80. Une 40aine dans le Nouveau Testament. Je vous en cite 2 dans l'Ancien Testament. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde », on trouve ça dans le Deutéronome. Ou louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 106. Et cela nous a été rappelé par Benjamin ce matin. Pour ceux qui se confient en lui, Dieu n'est pas un Dieu de colère, qui ne supporte aucune défaillance. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la Bible nous dit quelles sont les caractéristiques de cette miséricorde divine. Elle est éternelle, et ça nous rassure, parce que Dieu ne changera pas d'avis à un moment ou à un autre. Elle est infinie, psaume 108. Elle est inépuisable, dans les Lamentations de Jérémie. Et ce qui est encore plus beau, je trouve, c'est la joie de Dieu. Dieu est joyeux d'être miséricordieux. On le trouve dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Françoise l'a prié ce matin. Et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous coupables de désobéissance, mais Dieu a choisi d'accorder son pardon à celui qui reconnaît ses fautes. La preuve, eh bien Jésus-Christ lui-même. N'a-t-il pas dit à plusieurs reprises, « Va, tes péchés sont pardonnés » et qu'est-ce qu'on lui a reproché d'avoir tenu ces propos-là ? À un paralytique, à une pécheresse qui répand du parfum sur ses pieds et où il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. » Et comme souvent, Jésus nous a montré le chemin, il nous a donné l'exemple. Alors qu'il est sur la croix, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » On peut lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, « Christ est devenu homme afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Jésus nous a montré le chemin, il a ouvert la voie, et pourtant, nous avons bien des difficultés, nous, à être miséricordieux, parce que, bien, nous manquons naturellement de compassion. Nous pensons d'abord à nous. Nous voyons les choses de notre point de vue. Ce n'est pas facile de se mettre à la place de l'autre pour voir les choses comme lui les voit. Parce que nous sommes prompts à juger, à condamner, parce que nous sommes plus enclins à réclamer justice, le châtiment du coupable, plutôt qu'à pardonner. Parce que nous ne sommes pas lucides sur nous-mêmes, est-ce que nous sommes si différents de ceux à qui nous refusons de pardonner ? Tu mentionnais le serviteur impitoyable. Bien sûr, nous n'avons pas tous commis les mêmes péchés, mais nous sommes tous pécheurs. J'ai trouvé dans l'évangile de Luc cette parole, « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Je me dis que si on a une bonne opinion de nous-mêmes, en se disant « Après tout, je ne suis pas pire que les autres », eh bien on ne mesure pas l'ampleur du salut que tu soulignais, Benjamin, l'ampleur du salut dont nous bénéficions, parce qu'on a l'impression que finalement, on nous a remis une petite peine, alors que nous étions promis à la peine capitale. Alors Jésus nous exhorte, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Mais comment faire ? Le sujet est tellement vaste que j'ai vraiment l'impression de survoler toutes ces béatitudes en semant quelques idées, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. Quelques pistes. Je peux être miséricordieux face à une injustice qui me révolte lorsque je choisis non pas, par exemple, de couvrir quelqu'un d'invective, de l'injurier, voire de lui mettre mon poing dans la figure, en acceptant de ne pas rendre l'offense, lorsque je manifeste de la retenue, c'est une forme de miséricorde. Lorsque je pense les blessures de quelqu'un, au propre comme au figuré, que ce soit dans la maladie ou dans le moral, dans la psychologie, lorsque j'accorde un bienfait, lorsque je prends soin de quelqu'un, j'exerce la miséricorde. La miséricorde, c'est la capacité à comprendre quelqu'un d'une manière plus particulière et à lui porter secours. Vous connaissez tous ce verset du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous partageons tous la même condition et cela devrait nous aider, nous encourager à être miséricordieux. » Et non seulement être miséricordieux, mais dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et je me dis que là, on a un moyen de voir un peu pour quelles raisons on fait certaines choses. Si je ne suis pas joyeux d'aider mon prochain, si je ne suis pas joyeux de lui venir en aide, ben je peux vraiment me poser des questions sur mes motivations profondes. Est-ce que j'essaye de gagner la faveur divine en disant « Seigneur, tu vois, j'obéis ». Bon, au moins j'obéis. Le cœur n'y est pas forcément, mais j'obéis. Est-ce que c'est du légalisme? Est-ce que je m'achète une bonne conduite? Dans ce cas, je crains fort que, comme le dit l'Écriture, nous ayons déjà reçu notre récompense et une bonne réputation devant les hommes. Je crains qu'on n'ait pas fait la volonté de Dieu. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et quel est le fruit, le bénéfice? Eh bien, Jésus nous dit « les miséricordieux obtiendront miséricorde ». Au psaume 112, on lit aussi « heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, car il ne chancelle jamais ». A contrario, souvenons-nous du serviteur impitoyable qui a perdu le bénéfice de sa remise de dette parce que lui avait refusé de remettre la dette de son prochain qui était pourtant bien moindre. Et dans l'épître de Jacques, on trouve cette parole « le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ». Alors, on peut rappeler à ce stade, et ça nous a été dit encore ce matin, que le pardon de Dieu ne dépend ni de nous ni de nos actions, mais de Dieu, qui pardonne parce qu'il est Dieu, parce que c'est son nom, parce qu'il le veut. Dieu a choisi souverainement de nous pardonner. Dans l'Épître aux Romains, on peut lire « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut », est-il écrit. La promesse « car ils obtiendront miséricorde » n'évoque pas, un salut conditionnel. « Si je suis miséricordieux envers mon prochain, Dieu me pardonnera ». Ce n'est pas comme cela qu'il faut le comprendre. Il ne s'agit pas d'un donnant-donnant. Mais comment celui qui a connu le poids de ses propres fautes, qui s'est repenti, qui a pleuré éventuellement sur ses fautes, qui a tout fait pour développer un esprit de douceur, après avoir constaté l'injustice du monde, comment celui-là pourrait-il ne pas être miséricordieux? Comment pourrait-il refuser d'accorder son pardon? J'en viens à la deuxième béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Deux termes qui méritent qu'on s'arrête, je pense, c'est le cœur et la pureté. Le cœur, dans la Bible, c'est le centre de contrôle de tout notre être. C'est le centre de la volonté, c'est là qu'on formule nos projets, nos objectifs. C'est aussi le centre de nos émotions, de nos sentiments. C'est le centre de notre vie intérieure, de notre personnalité. C'est le centre de notre être tout entier. Le cœur, c'est vraiment la partie intime de l'être. Quant à la pureté, là aussi j'ai consulté le dictionnaire, c'est la qualité de ce qui n'est pas pollué. Et on a été servi ces dernières semaines en termes de pollution. C'est la qualité de ce qui est sans défaut. On donne l'exemple de la pureté d'un diamant. Quelque chose qui est sans impureté ou qui n'est pas mélangé. Je pense à un corps pur en chimie. La qualité de ce qui est sans souillure ni tâche morale. Christ a accompli cela. Christ, bien qu'ayant revêtu la condition humaine, n'a jamais commis de péché. Ça nous est rappelé dans Hébreux 7. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Au chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. J'ai voulu souligner ces points-là parce que quand on lira la dernière des quatre béatitudes, il faudra se souvenir de cela, de la pureté de Jésus, sans tâche, sans péché. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ça nous rappelle que Dieu est jaloux. Jaloux en ce sens qu'il ne veut pas nous partager, parce que s'il nous partage, il nous partage avec le mal, avec le malin, avec le diable. Et ça, Dieu ne le veut pas. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui ne mélangent pas leur vie en Christ avec les souillures du monde. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. À l'état naturel, c'est le cœur qui empêche une personne de se tourner vers Dieu. Alors, j'ai voulu faire quelque chose de très raccourci. Cœur égale mauvaise pensée, ce n'est pas une égalité mathématique, hein, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais c'est ce verset qui dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » On sait que le cœur naturel de l'homme n'est pas pur. En parlant des païens, on lit dans l'Épître aux Éphésiens « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » J'ai été frappé justement de ce contraste entre la pureté et l'endurcissement à force de se salir. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est une mise en garde qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Alors, comment progresser ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Gardez son cœur pur. La Bible nous donne quelques pistes pratiques. Dans la première épître aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ou dans l'épître aux Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Garder son cœur, c'est garder ses fréquentations, c'est regarder avec qui on partage, c'est garder nos pensées. Conserve-toi pur, dira Paul à Timothée. Ne participe pas au péché d'autrui. Dans l'Épître aux Romains, on lit aussi « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve ». On voit qu'on a quand même un rôle dans le fait de se garder pur. Exerçons notre jugement et faisons tout pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. On a tous une conscience, alors elle n'est pas infaillible, mais il y a des moments où notre conscience nous parle. Elle nous avertit de certaines choses. Eh bien, ne la faisons pas taire dans ces moments-là. Il y a de fortes chances que cette conscience nous aide, nous montre, nous révèle un danger et nous aide en cela à nous garder purs. Jacques encore, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevoir la parole, c'est recevoir une référence, un guide, un appui, une lampe sur notre chemin pour nous donner du discernement. C'est la parole qui est la lumière et qui nous montre ce qui est propre et ce qui est sale. Et puis il y a des paroles difficiles à entendre aussi pour se garder pur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, mais verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Personnellement, je le vois comme une image, et surtout pas à prendre au premier degré. Mais ça me rappelle aussi cette image que Jésus utilise du vigneron qui émonde la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Il est salutaire pour nous de renoncer à ce qui n'honore pas Dieu et qui pourrait être pour nous une occasion de chute. Pour se garder pur, on a besoin de se laver aussi, et comment ne pas penser au lavage des pieds ? Jésus, qui lave les pieds de ses disciples, et qui rappelle à Pierre, et ça, ça nous fait du bien aussi quand même, que seuls ses pieds ont besoin d'être lavés. Il a déjà été purifié, et simplement, il doit faire, j'allais dire, une toilette d'entretien. Je pense que c'est une bonne discipline dans notre vie aussi. Je pense que comme moi, vous vous lavez tous les jours. Eh bien, spirituellement, ce serait une bonne chose aussi que de se tenir pur en s'examinant et en priant Dieu de nous montrer ce qui pourrait nous avoir salis. La récompense de ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et en pensant à cela, je me rappelais que voir la face de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était fatal. C'était la mort. Quelle différence ! Nous verrons Dieu face à face. Rappelez-vous, Dieu dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il n'est même pas question de le voir, là encore. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas ce que vous imaginez, si vous vous êtes déjà mis dans cette situation de dire qu'un jour vous serez face à Dieu. C'est plutôt intimidant. Nous le verrons face à face. C'est intimidant et responsabilisant. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Celui qui se garde pur porte du fruit aussi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors là, quand on regarde le dictionnaire au mot paix, évidemment, on entend d'abord parler des conflits armés, des choses comme ça. Mais on trouve aussi, comme mention, c'est un état de tranquillité, de repos, un état de calme intérieur, ou l'état de concorde d'un groupe qui n'a pas de querelle. L'homme en rupture avec Dieu ne connaît ni la paix intérieure, ni la capacité d'instaurer une paix durable avec les autres. On voit bien dans notre monde, la paix, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît longtemps, et quand on pense à l'histoire, je me dis que je suis une des premières générations à avoir vécu sans connaître une période de guerre. Bon, il y a eu la guerre du Golfe, des choses comme ça, c'était assez loin, même si notre pays était concerné, mais les hommes entre eux sont incapables de vivre en paix durablement. Et Ésaïe nous dit au chapitre 48, verset 22, « Il n'y a pas de paix pour le méchant ». Dans l'Épître aux Galates, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, prise à partie, ivrognerie, orgie, choses semblables, etc. La paix, ça n'est pas naturel, ça ne vient pas de l'homme naturel. Alors, comment progresser ? Procurer la paix, quand on a fait ce constat que sans Dieu, il ne peut pas y avoir de paix, eh bien, c'est permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de rencontrer Dieu, qui va déposer la paix dans leur cœur et qui va ensuite leur permettre de rétablir des relations pacifiques avec les autres. Sans évangile, le problème fondamental des relations humaines n'est pas réglé. La paix n'est pas possible. La paix, nous est-il dit, est un des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Si nous voulons recevoir la paix ou la retrouver, réconcilions-nous avec Dieu en lui demandant pardon et en lui demandant de faire son œuvre en nous. Là encore, quelques considérations pratiques. Pardon. Dans le livre des Proverbes, chapitre 17, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » On a quelquefois des décisions à prendre dans la vie de tous les jours, par exemple sur la gestion de son budget, mais il faut savoir que ça peut contribuer à instaurer la paix ou au contraire à instaurer des tensions dans la famille. Quand on a peur de ne pas pouvoir honorer les traites, quand on doit renoncer au nécessaire parce qu'on a dépensé dans le superflu, eh bien effectivement, on crée des tensions. Et on a une société de consommation qui nous pousse sans arrêt à toujours vouloir avoir plus. C'est Alain Souchon qui disait « On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir plein de choses dans nos armoires. » On nous fait croire. On voudrait nous le faire croire, en tout cas. On sait bien que ce n'est pas ça. Et Paul, parlant du contentement, nous dit, dans l'Épître aux Philippiens, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, en parlant d'une collecte, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Le contentement, ça peut être une source de paix, alors que l'envie, on sait que ça crée des troubles. Un autre point aussi qui est dénoncé dans l'Écriture, c'est la colère. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 15. Pas tout à fait dans le même esprit, mais dans la réaction face aux querelles aussi. Proverbe 26, 20. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est une évidence. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ne pas jeter d'huile sur le feu, comme on dit. C'est une preuve de compassion, on en parlait au début. C'est aussi permettre que la paix s'installe. Éviter de prendre part dans des querelles, de prendre parti, de colporter des ragots ou simplement de dire « Tu sais, un tel m'a dit ça à ton sujet. » On a étudié l'année dernière l'Épître de Jacques, il y avait des recommandations sur l'usage de la langue. Il est toujours utile de s'y référer. Le bénéfice, ils seront appelés fils de Dieu. L'apôtre Jean s'exclame, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes ses créatures, ça nous le savons, nous le croyons. Mais nous avons voulu nous émanciper, tout faire par nous-mêmes. Et cette filiation directe a été abîmée, et Christ est venu nous offrir une réconciliation, une réparation pour le péché de l'homme. Christ est venu pour faire la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5, verset 1. Si notre conscience est apaisée, notre relation avec Dieu n'est plus conflictuelle. Nous avons la paix, Christ est notre paix, dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Jésus ne nous a-t-il pas dit lui-même « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et puis on arrive à la quatrième et dernière pour ce dimanche, béatitude. C'est à mon sens la plus difficile. Vous remarquerez qu'il y a trois versets et non pas un seul. Jésus sent là qu'il y a quelque chose de délicat qu'il va falloir expliquer un peu plus. Heureux ceux qui sont persécutés, n'oublions pas, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, rien que ça. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le verset 12, oui, on veut bien se réjouir d'une grande récompense. Mais être heureux lorsqu'on nous outrage, qu'on nous persécute, qu'on dit du mal de nous, on peut vraiment se réjouir de ça? C'est toute la question du mal ici qui est posée. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le diable. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi l'injustice? Pourquoi laisse-t-il faire? Vous vous êtes jamais posé ces questions? Et vous savez que tout le monde se la pose, croyant ou non croyant. Et beaucoup, d'ailleurs, prennent argument de cela pour dire « Dieu n'existe pas » ou alors « Il n'est pas tout-puissant ». Il n'est pas bon, il n'est pas amour, c'est pas possible. Et ils le rejettent. Ils font le procès de Dieu, en fait. Et ils oublient ce qui s'est passé au mont Golgotha. Persécuté, outragé, Jésus, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'a été, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Vous connaissez bien ce texte, Ésaïe 53, mais je voudrais quand même en relire quelques versets. Ce sont nos souffrances qu'il a porté. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a été crucifié pour avoir dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Il a été crucifié entre deux voleurs. Eux, on sait pourquoi ils ont été punis. On pense qu'on veut du châtiment imposé, mais enfin, il y avait une raison. Pour Jésus, Pilate lui-même a dit « Je ne vois en cet homme aucune faute ». Et quand on parle de grande récompense, eh bien, l'Écriture continue en disant « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom ». Philippiens 2, verset 9. Alors évidemment, Christ est un modèle, on n'est qu'un pâle reflet. Mais on peut se dire aussi, parce que nous sommes en Christ, parce que nous refusons de vivre comme les autres, au moins sur certains points, parce qu'il nous arrive de dénoncer la justice, peut-être pas toujours autant que nous le devrions, alors il nous arrive de subir des calomnies, des insultes, des moqueries, souvent les moqueries, plus que les insultes, mais des violences et des persécutions dans notre pays, heureusement c'est rare. C'est quasiment inévitable, c'est dit dans la deuxième épître à Timothée, « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Être persécuté à cause de la justice, c'est faire face à des problèmes à cause de nos convictions morales ou spirituelles. Or, personne n'aime souffrir. On supporte encore une punition qu'on a méritée, mais si elle est injuste. C'est pas vous, mais la souffrance, ça fait peur. Comment est-ce qu'on peut accepter comme ça, sans protester, sans se révolter? Je vais vous dire que je ne me sens pas très à l'aise pour vous enseigner là-dessus, parce que j'ai souvent entendu dire auparavant que quand on voulait prêcher, il fallait toujours, par rapport à son niveau intellectuel, spirituel, il valait mieux prêcher en dessous et être un exemple de tout ce qu'on pouvait annoncer. Ben, je ne devrais pas prendre la parole ce matin devant vous, parce que je ne suis pas mieux que vous. Comment est-ce qu'on réagirait face à la persécution? Quand je regarde déjà la gêne que j'ai pu avoir à me situer dans certaines discussions, dans certaines remises en cause, vous savez, je ne veux pas faire pleurer sur mon sort, mais quand vous êtes dans une salle des profs, il y a plein de gens très instruits autour de vous qui vous expliquent, qui considèrent comme une évidence que l'Écriture, mais c'est dépassé. Et honnêtement, je ne me suis encore jamais levé dans la salle des profs pour leur dire « Vous avez tous tort ». J'ai essayé de le faire quelquefois du 1 à 1. Et pourtant, cette parole nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Dieu veille sur tout. Et je dois dire que j'ai quand même été encouragé aussi dans ma vie chrétienne par les dimanches de l'Église persécutée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on est souvent attristé de ce qu'on voit, et en même temps on entend des témoignages qui ont une force, et où on se dit, Dieu a donné la force à ces chrétiens de préférer la confession de leur foi plutôt que, pour certains, de sauver leur vie. Ils ont osé affronter tout ça. Alors, on ne souhaite pas connaître ces circonstances-là, mais allons chercher les forces là où on les trouve. Il y a des témoignages de gens qui y parviennent. Et malheureusement, c'est souvent dans la dernière extrémité qu'on finit par se révéler, tant qu'on nous laisse un peu notre confort, On nous laisse dire gentiment que la Bible, oui, bon, d'accord, allez, on le laisse dire. De toute façon, nous, on sait ce que c'est. Hein, les autres, c'est pas la peine de le combattre, il fait de mal à personne. Donc, on n'est pas persécuté. Peut-être que si on allait plus loin, on aurait à le faire. Quelques versets encore pour nous exhorter à regarder à la récompense finale plutôt qu'aux difficultés de moment. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je ne sais pas à qui vous pensez. Peut-être à vous d'abord, à moi, à Pierre. On peut tous un jour être comme Pierre, pris un peu au dépourvu, hein, il est là sur la place. Tu étais avec eux ? Moi ? Non, non. La peur. Et cette parole de Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, qui m'a aidé un jour à me positionner en face de quelqu'un, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est une parole, quand vous l'avez présente à l'esprit et que vous entendez quelqu'un qui insulte Dieu et qui sait que vous êtes le responsable du club biblique du lycée et qu'il le fait devant vous, ce jour-là, cette parole m'est venue et je me suis dit, je ne peux pas ne pas confesser Dieu aujourd'hui. Devant lui, il le fait exprès. Et ça a été l'occasion d'une discussion, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'il était peut-être beaucoup moins sûr de lui que ce qu'il voulait bien dire. C'était de la provocation. Et puis, je citais l'exemple de Pierre aussi pour dire que Pierre a renié une fois, deux fois, trois fois. Mais ensuite, dans sa vie, il est allé jusqu'au bout de son témoignage. Et j'aime à me rappeler que Dieu est miséricorde et qu'il n'a pas rejeté Pierre pour avoir failli cette fois-là. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Malheur aussi à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Nous aussi, comme chrétiens, nous sommes face à des débats de société sur... Alors j'ai pris quelques exemples, vous pourriez en avoir d'autres, l'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie, etc. Est-ce que nous osons dire simplement ce que la Bible dit sur le sujet ? Ou est-ce que nous laissons dire ? Est-ce que nous laissons dire que les hommes ont des droits et que donc ces droits doivent être traduits dans des lois et que vouloir simplement dire, je pense au débat sur l'avortement en ce moment, qu'il y a peut-être une alternative. Ah non, ça, il faut l'empêcher. Il faut empêcher les sites d'information, etc., d'ouvrir le débat. Jésus dira au verset 14 du même chapitre de Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Dieu attend de ses enfants qu'il montre le chemin, libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais si nous ne transmettons pas le message, est-ce qu'on ne pourrait pas assimiler cela à de la non-assistance à pécheurs en danger ? À propos d'un débat sur ce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire, de manger ou de ne pas manger, Paul conclut ainsi sa réflexion en disant « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Et là, Paul nous dit, là où il n'y a pas de conviction, il y a péché. Là où il y a une conviction, il n'y a pas de péché. Demandons à Dieu de nous garder, de laisser faire ou de sembler approuver des choses que nous devrions condamner. Alors le bénéfice, rien que ça, le royaume des cieux. Dans l'Épître aux Romains, on peut lire, en rapport justement avec toutes ces persécutions, etc., au chapitre 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Le royaume des cieux, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, l'éternité, la présence de Dieu, l'absence du mal, donc l'absence du péché, l'absence de querelle, la paix, l'harmonie, l'amour, la grandeur, etc. Que d'images. La conclusion de ce message, c'est que le bonheur est possible. Tout le monde dit le chercher, mais c'est possible et ça, c'est une bonne nouvelle. Et comme souvent dans la Bible, eh bien, nous en goûtons les prémices. Nous avons les prémices de ces promesses de Dieu. Et je vous laisse ce verset de Paul qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Observer les commandements de Dieu, c'est déjà une marque de sagesse, du moins dans la mesure de ce qu'on est capable de faire tant que nous sommes sur cette terre, et ça nous évite de nous mettre dans des situations périlleuses, mais ce n'est pas encore la pleine jouissance de ce qui nous est promis. Alors, continuons de courir pour tâcher de le saisir, ce prix.